Cube Radio. Vous l'avez vu? Vous l'avez lu? Maintenant, entendez-le. Avec Antoine Joubert et Germain Goyer, le guide de l'auto. Cube Radio.
Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle édition de l'émission du guide de l'auto. Frédéric Mercier ici en remplacement d'Antoine Joubert, qui n'est pas là cette semaine. Germain Goyer est à mes côtés, fidèle au poste. Salut Germain.
Oui, bonjour Fred. Moi, je ne bouge pas, je suis toujours là.
Incroyable.
Fidèle au poste.
Tel du béton.
À peu près.
Germain, on a une bonne émission devant nous. On va faire un retour sur l'actualité de la semaine. On est au mois de juin. Je ne sais pas ce qui se passe, mais il y a quand même pas mal d'actualités dans le monde automobile. Je ne sais pas si c'est parce que... avec la réouverture des frontières et tout ça, tout le monde est un peu excité, mais bref.
J'ai l'impression aussi que l'absence de salon dans la dernière année, oui, dans les derniers mois, ça répartit les dévoilements de nouveaux véhicules.
Au lieu d'avoir tout condensé en une semaine.
Exactement, on pouvait avoir 10 ou 12 lancements dans une semaine. Là, les constructeurs n'ont pas besoin d'attendre ce type d'événement-là. Ils peuvent le faire de manière plus autonome, chacun de leur bord, et profiter du spotlight, du rayonnement complet, plutôt que de se séparer ça là, à 10 ou 12 modèles. Et le roi de la transition, parmi ces dévoilements, cette semaine, on a eu le Lexus NX 2022, qui n'est pas nécessairement le véhicule qui connaît le plus de succès chez Lexus, mais là, ça pourrait être appelé à changer.
Lexus, c'est pas arrangé pour qu'on en parle beaucoup, parce que la nouvelle est sortie vendredi à 23h, Germain.
Oui, c'est un peu tard,
Évidemment, on comprendra que c'est une nouvelle. C'est un dévoilement international. Ouais. Fait que c'était une heure qui avait plus de bon sens pour les marchés de l'Europe et du Japon.
Toujours est-il qu'à l'aube du week-end, c'est pas génial.
Et la grosse nouvelle?
C'est qu'on intègre la technologie hybride rechargeable. Donc,
est-ce qu'on l'appelle le Lexus NX Prime?
On l'appelle l'hybride rechargeable, le 450H+. Donc, ça fait beaucoup de caractères
ensemble. C'est une équation mathématique,
cette affaire-là. Oui, à peu près ça. Ça me rappelle des belles années du secondaire. Et donc essentiellement, là, le NX, c'est un RAV4 haut de gamme. C'est un RAV4 de luxe. Et d'ailleurs, ils sont assemblés à la même usine de Cambridge en Ontario.
La version hybride rechargeable.
Sauf la version hybride rechargeable.
Assemblé au Japon, comme c'est le cas d'ailleurs pour le RAV4 Prime.
Absolument.
Qui n'est pas assemblé au Canada.
Absolument. Donc, c'est ça, c'est la grande nouveauté. C'est la même technologie que le RAV4 Prime, donc une autonomie là, en mode tout électrique. Et je pense que c'était l'information que tout le monde attendait. C'est 58 km. Ouais. Donc, c'est essentiellement, encore une fois...
Un petit peu moins que le RAV4 Prime, probablement un peu plus lourd comme véhicule avec les équipements à l'intérieur.
Possiblement.
Donc, est-ce qu'on a donné un prix?
J'ai pas vu l'échelle de prix, cela dit, mais Toyota et Lexus ont l'habitude là, de dévoiler ça au compte-gouttes, ce type d'information-là. Donc, il faudra attendre.
On se souvient qu'avec le RAV4, le prix de base permet d'aller chercher une subvention totale de 13 000 $ au Québec.
Ça va être pas mal plus difficile avec le NX.
On peut se douter qu'au moins la subvention fédérale va sauter, ça c'est sûr.
Oui, et peut-être un mot là quand même sur son design, parce que il ressemble beaucoup à l'ancien NX. On se fera pas de cachette dans les photos de lancement. La grille en noir, j'ai l'impression que ça atténue quelque peu l'effet sablier qui plaît pas à tous, mais sinon pour le reste ça ressemble énormément à l'ancien NX qui est encore offert. On a parlé de la version hybride rechargeable. C'est évidemment pas la seule offerte. Ouais. Moteur de base, 4 cylindres, 2,5 litres. Un moteur qui est très, très, très connu chez Toyota, chez Lexus.
On fait sauter le moteur turbo qui était là avant. Je me souviens, quand Lexus est arrivé avec le NX, c'était la première fois qu'on mettait un moteur turbo chez Lexus.
Oui, effectivement.
Puis on change d'idée, finalement.
Mais on l'intègre comme moteur optionnel. Donc, on va avoir un choix très étendu, très très vaste de motorisation, donc 3. Donc, le moteur turbo-compressé de 2,4 litres, lui, va demeurer, mais ne sera plus le moteur de base. Là. Donc, voilà.
Et en voir les images, je crois comprendre qu'à l'intérieur, on abandonne le maudit pavé tactile dont je ne suis pas capable.
C'est une très grande nouvelle.
On aurait dû commencer avec ça. Au Yab, la version hybride rechargeable. Oui. Parlons du pavé tactile.
Oui, donc on aurait finalement un écran tactile central qui ressemble énormément à celui des véhicules Toyota, sans surprise. Donc, j'ai hâte de voir si ce sera suffisant pour aller conquérir de nouveaux acheteurs, parce que, on le sait bien, c'est le RX chez Lexus qui vend le NX. C'est un peu dans l'ombre et pourtant, c'est un segment très, très concurrentiel.
Oui, on n'a jamais réussi chez Lexus à vraiment faire sa place dans cette catégorie de véhicules-là avec le NX.
C'est un produit qui est beaucoup plus jeune, hein, il faut dire, que le RX.
Mais quand même, 2015, ça fait quelques années qu'il est sur le marché.
Et c'est difficile de percer, effectivement.
Ouais, la présentation intérieure du modèle actuel laisse à désirer. Il y a comme un petit miroir qui sort de nulle part. Je sais pas si tu as déjà remarqué ça.
Non. Ah, c'est... Mais quand on a dans le même créneau des BMW X3, des Audi Q5, exact. Des Acura RDX même, c'est difficile de faire sa place.
Absolument. Écoute, on va passer de chez Lexus à chez Ford. Grosse nouvelle chez Ford, le Ford Bronco, qui a été dévoilé il y a quasiment un an.
Ça fait 11 mois.
Sort enfin de l'usine. Donc, il y a eu quelques délais. C'est pas si pire que ça, parce que dès le début, on nous avait dit...
C'est moins pire que pour d'autres modèles chez Ford.
Oui, exact. Parce qu'au début, on nous avait parlé du printemps 2021. Donc là, on est pas mal à l'été. Là. Donc, les premiers Ford Bronco vont arriver chez les concessionnaires dans les prochaines semaines. Puis là, je veux juste mettre quelque chose au point, là, parce que j'ai lu beaucoup, beaucoup de commentaires qui disent « Ah, mais il y en a un Bronco dans mon concessionnaire. »
Non, c'est un Bronco Sport!
Exact. Faut quand même le spécifier. Puis la confusion est comprenable, oui. Mais le Bronco et le Bronco Sport sont deux modèles complètement différents.
Les dernières semaines, il y a eu là, des vrais Broncos dans les concessionnaires du Québec. C'était deux véhicules de pré-production qui ont fait la tournée, qui, eux, ont été aperçus.
Ça, c'était pour des formations vendeurs.
Exactement.
C'est pas des véhicules à vendre.
Non, c'était pas livré à aucun client. C'était simplement pour des présentations aux employés concessionnaires. Donc, version 2 portes, version 4 portes. Mais non, il n'y a pas eu de Bronco qui ont été livrés encore.
Si vous nous dites que vous avez vu un Bronco sur les routes, à 99,9% de chance, c'était un Bronco Sport. C'est un véhicule qui ne partage pas les mêmes motorisations, pas la même architecture.
Ça n'a rien à voir. Là.
Exact. À part le nom puis le design un petit peu. Donc, d'où la confusion qui est quand même comprenable. Là, mais bref, ce sont deux véhicules différents.
Et là, c'est enfin de plus en plus concret puisqu'on a commencé à assembler le vrai Bronco.
Exact. À l'usine de Wayne au Michigan.
Bon, on a notre collègue cette semaine, Louis-Philippe Dubé, qui a conduit en primeur la Honda Civic 2022, de nouvelle génération, voiture très attendue, voiture qui aurait fort probablement dû être dévoilée l'année dernière, mais en raison d'une série de délais quelconques, ça s'est fait cette année. Et là, les voitures commencent à être assemblées et on a pu la conduire au guide de l'auto. Ça vaut la peine d'aller lire ça.
En fait, les voitures arrivent même chez les concessionnaires parce que c'est construit en Ontario, c'est vraiment aux portes.
Effectivement.
Donc, ceux qui en ont déjà passé une commande ou qui veulent en acheter une, ça arrive là, la Civic 2022. Et le prix a été dévoilé.
Le prix a été dévoilé et je pense que pour le public en général, il y a un petit réveil ou une petite mise à jour qui s'impose. Des véhicules abordables, il n'y en a plus, Fred.
Ils sont très rares.
Ça n'existe plus, ça tend à disparaître de plus en plus avec le Civic de génération sortante. Quand on avait abandonné la boîte manuelle pour 2021, le prix avait bondi tout d'un coup. Donc, des Civic à 17 000 $ là, avec des enjoliveurs, des sièges en tissu et une boîte manuelle, c'est fini.
C'est ça.
On ne verra plus jamais ça.
La Civic de base maintenant vient même avec un équipement.
C'est 24 465 $. Là, faisons un chiffre. C'est 25 000 $ pour une Civic de base. Ouais. Là. pas une version touring, pas une version EX.
Cherchez pas la Honda Fit, il n'y en a plus. C'est le modèle d'entrée de gamme chez Honda.
Effectivement, avec le HR-V, finalement.
Ouais.
Donc, et là, ben, ça, c'est pour la version DX, hein, la version de base. C'est important de le mentionner. Si on fait le saut vers une EX, on est à 26 765 $. Donc, grosso modo, là, avec les frais de transport, préparation, avec les taxes, une Civic va vous coûter 30 000 $.
Au moins. Oh oui, absolument. Absolument.
Et ça, c'est si vous ne cochez pas 56 000 options. Là.
Puis, il n'y a pas, tu parles des options, il n'y a plus de boîte manuelle.
Non,
avec
c'est
la
ça.
Berline, c'est terminé. Il va y en avoir sur la version à hayons qui va être dévoilée bientôt. Mais une Civic berline manuelle, ça n'existe plus. En attendant, la SI là, qui va probablement ramener ça. Mais ouais, effectivement, Germain, t'as raison. La Civic n'est plus la petite voiture pas chère qu'on connaissait auparavant. La clientèle a changé aussi, je pense, beaucoup. Puis,
oui,
veux,
mais
pas, ben,
le prix, marché automobile a évolué.
Le prix
là,
de tout augmente.
Je me permets une anecdote rapide. Un membre de mon entourage m'a dit vouloir acquérir un nouveau véhicule ces dernières semaines. Et elle me dit, j'ai un budget de 25 000 $. J'étais bien embêté de lui dire, parce que ça faisait plusieurs années que cet individu-là n'avait pas acheté de véhicule neuf, donc n'était pas nécessairement au fait des nouveaux prix, et elle pensait qu'avec 25 000 $ on avait une auto
bien équipée.
Bien équipée, ouais, là, pas, de milieu de gamme, disons ça comme ça. Ben, malheureusement, à 25 000 $
Mais en même temps,
oui, je le sais,
à 25 000
oui.
On dit bien équipée, mais une voiture de base aujourd'hui offre la climatisation,
absolument,
les sièges chauffants, la transmission automatique. Fait que c'est,
absolument.
Oui, tu payes plus cher, mais t'as plus d'options aussi. Finalement, il y avait, je pense, pas assez de gens qui voulaient acheter des voitures peu ou pas équipées et payer moins cher. Fait qu'on a juste abandonné ça.
C'était surtout pas mal moins rentable pour les manufacturiers. Et dans cette veine-là, ben, on comprend les consommateurs d'être tentés d'aller vers du financement 72 mois ou 84 mois parce que le revenu du ménage, lui, n'a souvent pas connu cette même hausse-là que celle du prix des voitures. Même si on ne le recommande pas, on comprend que beaucoup de gens soient tentés d'aller dans cette direction-là.
Oui, puis la majorité des gens vont penser en termes de financement, de paiement mensuel et non de paiement. T'sais, on parle de 25 000 $ pour la voiture, mais ce que les gens veulent, c'est 400 $ par mois ou 450 $ par mois. C'est plus vers là qu'on va diriger les clients. Les essais routiers de la semaine, Germain. J'ai conduit récemment la Subaru Impreza.
Oui.
En fait, j'avais déjà conduit ce modèle-là, mais je l'ai réservé parce que c'est moi qui fais le texte pour le prochain guide de l'auto 2022 qui va sortir cet automne. Je voulais me rafraîchir la mémoire, puis je t'avoue que elle a vieilli, l'Impreza.
Elle a vieilli et j'ai l'impression que tous les acheteurs traditionnels d'Impreza, ben aujourd'hui, ils achètent quoi? Ils achètent un Crosstrek.
Et j'ai l'impression que Subaru, volontairement, ne veut pas aller jouer dans les plates-bandes du Crosstrek et garde l'Impreza dans une espèce de zone d'ombre. Un seul moteur offert avec ce modèle-là, un moteur de 152 chevaux, qui m'a laissé sur mon appétit. Surtout
c'est pas
avec...
une bombe, là.
Non,
vraiment
surtout
pas.
Avec la transmission CVT, je t'avoue que... Puis même là, je te dis ça, mais la manuelle à 5 rapports, elle aussi, est assez désuète, merci.
Absolument.
Pourquoi ne pas intégrer le moteur de 2,5 litres qu'on a mis sous le capot du Crosstrek?
Ouais.
À mon avis, c'est justement pour ne pas aller nuire aux ventes du Crosstrek, qui
puis
va très,
là,
très bien.
Encore là, on serait obligé de la vendre 30 000 $
Ça serait plus cher, inévitablement.
Donc,
ceci dit,
rendu
bon,
là,
ça reste la seule voiture compacte des constructeurs généralistes à offrir le rouage intégral de série. On
oui,
peut l'avoir aussi avec la
Mazda. Et on sait qu'il est performant. Là.
C'est ça. Fait que les qualités demeurent. C'est un véhicule avec des compétences hivernales exceptionnelles, mais la présentation intérieure, c'est très vieux, beaucoup de plastique dur. Je t'avoue que prends le volant de ça après avoir conduit une Mazda 3 ou même la nouvelle Hyundai Elantra. Il y a quelques années de différence. Là. On est vraiment dû pour un rafraîchissement.
Et pourtant, elle a été renouvelée il n'y a pas si longtemps. Là. Ça
ben,
remonte à 2018-19.
Renouvellement de mi-mandat, là, parce que la génération actuelle est assez vieille.
Ouais.
Mais oui, on avait modernisé le système d'infodivertissement, quelques trucs comme ça, mais les rides paraissent quand même, puis je t'avoue que c'est ça. En primeur, je vais te donner mon titre pour le guide de l'auto 2022. Je m'en souviens.
Tu l'as oublié. Bon, hein,
c'est tout en perte de vitesse.
En perte de vitesse. Je pense que ça lui colle très, très bien comme titre.
De ton côté, tu as conduit un Tucson, mais pas n'importe quel Hyundai Tucson.
Le Tucson à motorisation hybride. Donc, on le sait, hein, pour cette année, Hyundai renouvelle complètement, je dis cette année, hein, c'est 2022. Là, on est rendu
l'année
là.
L'année prochaine.
Là, on est rendu là. Donc, pour 2022, Hyundai a complètement renouvelé son Tucson. Et juste en le regardant, on s'en aperçoit. on a adopté à peu près la même stratégie qu'avec l'Elantra, hein, qu'on a renouvelé l'année dernière.
Ouais.
Donc, c'est un design... est-ce qu'on peut dire n'importe quoi? On a fait n'importe quoi.
On a osé.
Il y a des lignes... partout. Ouais. C'est d'une violence sans nom.
L'intégration des phares dans la calandre à l'avant.
On ne sait plus où regarder. Ouais. On ne sait plus où le devant s'arrête.
C'est très
chargé.
Quand
on regarde le côté, il y a des plis, il y a des lignes partout. C'est très chargé, effectivement. Et ce genre de design-là très audacieux, ça vieillit généralement assez mal. Et on sait que les constructeurs coréens renouvellent leurs véhicules rapidement. Donc, dans 3 ans, on va déjà être passé à autre chose.
Ouais.
Donc, je sais pas. Je suis vraiment pas... On m'a mal vendu l'idée. Là.
Outre le design, comment ça va?
Outre le design, à la blague, je disais, au moment où je conduisais ce véhicule-là, on m'a demandé, qu'est-ce que t'en penses? J'ai dit, ça va aussi bien que c'est laid. C'est-à-dire qu'il est très laid. Et franchement, ça va pas mal du tout. Là. On va pas se faire de cachette, Fred. C'est d'un ennui sans nom à conduire. Il n'y a aucune passion.
Parce que tu avais la version hybride.
La version hybride. Mais c'est ça. C'est d'un ennui. C'est aseptisé comme c'est pas possible. Et oui, bon, on y vient là, motorisation hybride. C'est la grande nouveauté, évidemment. Donc, gamme de moteurs qui est très, très étendue parce que le moteur de base, c'est le 2,5 litres qu'on retrouve ailleurs, évidemment. Et avec le l'hybride, on combine le 1.6 turbo compressé qu'on connaît bien chez Hyundai, chez Kia, à une mécanique électrique. Au terme de ma semaine, hein, l'ordinateur de bord affiche une moyenne de consommation de 6,8 litres dans des conditions que je pourrais qualifier de pas mal idéales parce que...
Est-ce que tu l'avais pendant la grosse canicule?
Oui, mais ouais. En même temps, beaucoup de routes de campagne, beaucoup
c'est
d'autoroutes.
C'est bon, ouais. Mais c'est pas exceptionnel.
Absolument pas. Donc, c'est pour ça. C'est correct, mais vraiment sans plus. Et le gros point que je trouve dommage avec le Tucson hybride, c'est que si on veut faire le saut vers l'hybride, il faut obtenir pour une version il faut opter pour une version luxury qui est près de 39 000 $.
Il n'y a pas d'hybride de base, on oublie ça.
Il y a deux versions d'hybride, mais c'est deux versions très cossues, donc très dispendieuses. Pour te donner une idée, le prix de départ du Tucson, c'est juste en bas de 28 000. Donc, il faut rajouter encore un 10 000 pour accéder à l'hybride. Je comprends qu'il y a beaucoup de consommateurs qui ne feront pas ce choix-là. On avait répété cette erreur-là, entre guillemets, parce qu'avec la Sonata, le principe était le même.
Ouais.
Mécanique hybride que j'avais trouvé beaucoup plus efficace, beaucoup mieux intégrée, beaucoup mieux adaptée au véhicule dans la Sonata. Mais encore là, il fallait dépenser là, beaucoup trop d'argent par rapport à des versions à essence. Ça ne valait absolument pas la peine.
Pour une consommation d'essence réduite, mais pas tant que ça, ça va prendre... énormément de kilomètres.
Absolument.
Avant de rentrer dans son argent avec ça.
Et c'est pas parce qu'un consommateur veut faire, entre guillemets, sa part pour l'environnement ou dépenser moins à la pompe qui est motivé à avoir des équipements à pu finir dans le véhicule et payer mensuellement 100 ou 200 $ de plus à l'achat ou à la location mensuellement. Donc, ça n'a pas de bon sens. Donc, mais une chose est certaine, hein, des Tucson, on en vendait énormément. On va continuer d'en vendre. déjà le modèle de nouvelle génération, il se passe pas une seule journée sans que j'en croise
ouais,
pas.
Oui, on en voit quand même pas mal. Routes.
Et on les voit de loin.
Oui, c'est ça. Ils sont durs à manquer aussi.
Je te le confirme, on les voit venir de très loin.
Puis il y a une version hybride rechargeable aussi
Qui va venir un peu plus tard. Mais bon, ça, si ça fait comme le Sorento qu'on attend toujours en version hybride rechargeable, croisez-vous les bras et croisez-vous les doigts pour qu'il arrive.
Le Hyundai Tucson, que je n'ai pas conduit encore, très hâte de le mettre à l'essai parce que effectivement le design frappe. Je ne sais pas si ça va être un avantage ou un désavantage pour la clientèle.
Dans tu connais mon avis, je pense.
Ouais, dans ma tête, tu t'achètes un Tucson, tu ne veux pas nécessairement flasher à ce point-là. Non. Bref, merci Germain, ça fait le tour des essais routiers. Après la pause, on vous revient avec une entrevue assez spéciale avec une personne qui vit dans son véhicule à temps plein, Anthony Roberge. Par choix, oui, c'est important de le préciser.
Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Antoine Joubert, Germain Goyer. Des vrais gars de char. Le guide de l'auto.
On est de retour à l'émission du Guide de l'auto. Frédéric Mercier, toujours en compagnie de Germain Goyer. Et Germain, c'est le temps d'accueillir l'invité de la semaine. On s'est dit qu'on allait faire un petit spécial estival cette semaine.
Et c'est pas parce qu'on a entre les mains un pina colada et une jupe hawaïenne.
Si seulement, si seulement. Non, on est en fait, on a décidé de jaser du phénomène van life avec quelqu'un qui le vit à temps plein depuis maintenant 4 ans. Il s'appelle Anthony Roberge, il est musicien, il vit dans son véhicule. Salut Anthony, qui est au bout du fil, comment ça va?
Bienvenue parmi nous.
Bonjour, ben oui, ça va bien.
T'es dans ton véhicule en ce moment?
Oui, ben, je suis présentement à Victoriaville, au Mont Arthabasca.
Pour faire une petite pause poutine. on est à une émission d'automobile. Une question qui s'impose. Quel est ton véhicule et pourquoi as-tu choisi ce véhicule-là plus qu'un autre?
Présentement, je vis dans un Mercedes Sprinter 2010 que j'ai acheté en 2017. Donc, j'ai comme quitté mon appartement à Sainte-Foy pour y vivre à temps plein en tant que musicien. Puis c'est ça, ben ça me permet en fait d'économiser beaucoup puis d'investir dans ma carrière artistique. Pourquoi un Mercedes Sprinter? Ben en fait c'est que j'avais besoin d'espace dans mon véhicule pour placer mon matériel sous mon lit. J'ai opté pour le Sprinter parce que c'est un moteur diesel, un moteur qui est fiable, qui a fait sa réputation au cours des dernières années. Donc, ça m'inspirait un peu confiance d'investir sur le long terme avec ce véhicule-là.
Là, ça fait 4 ans que t'es propriétaire. Tu l'as dit, tu l'as acheté en 2017. Est-ce que ton choix était judicieux 4 ans plus tard?
Oui, parce que tu aurais pu acheter un Ram ProMaster, par exemple, qui a une réputation un petit peu moins enviable.
Oui, c'est sûr que en 2017, le prix de base d'achat, dans le fond, du ProMaster était plus élevé. J'ai dû diminuer en nombre d'années sur l'année du véhicule pour ajuster en fonction du budget que j'avais dans ce temps-là. Dans ce temps-là, le Mercedes était au niveau du marché un petit peu plus abordable puis intéressant à aller chercher selon moi. Puis en plus, étant donné que c'est un moteur diesel, puis il y avait un aspect de fiabilité qui me donnait confiance, ça pesait sur la balance entre le ProMaster, le Transit et le Sprinter.
Il faut dire que tu l'as acheté au bon moment parce que entre les prix de 2017 et les prix de 2021, j'ai l'impression qu'il y a un gap énorme. Je ne sais pas si c'est dans mon impression seulement, mais c'est comme si la folie de la van life, je ne sais pas si la COVID a contribué à ça, mais il y a un engouement énorme. Puis des véhicules, je parle pas du tien, là, mais des véhicules dans un piètre état peuvent se vendre à des prix qui
n'ont carrément
pas de bon sens. Oui, c'est ça.
Oui, exact. J'ai acheté mon Sprinter en 2017 aux alentours de 20 000 $ il y a quelqu'un aujourd'hui, pas aujourd'hui, mais cette année, qui m'a offert le même prix, pour savoir si mon véhicule était à vendre. Et c'est comme quand même surprenant de savoir qu'au bout de 4 ans, mon véhicule n'a tout simplement pas perdu de valeur.
Avec des dizaines de milliers de kilomètres de plus au compteur.
Je suis curieux, tu as parcouru combien de kilomètres, effectivement, depuis les débuts?
135 000 kilomètres.
Oh, quand même, wow!
Ouais, c'est quelque chose.
Ça fait quand même un bout de temps que je te suis, puis je t'ai vu aller un peu partout, Californie, Floride, là, à cause de la COVID de cet hiver, tu étais du côté de la Colombie-Britannique, fait que t'en as mangé des kilomètres avec ton Sprinter.
Oui, ben c'est environ, je dirais, 30-35 000 kilomètres par année que je fais avec mon véhicule. Mais ouais, c'est ça. Ben il y a aussi l'aspect d'économie d'essence qui penchait aussi sur la balance. Là, les sprinters sont assez réputés pour ça.
Tu fais quoi comme consommation à peu près?
Présentement, je suis aux alentours de entre 12 et 13 litres aux 100 km.
Ah, c'est à peu près 10 de moins que mon Westphalia.
et pas mal plus de fiabilité. Ouais. Je serais curieux de t'entendre, Anthony, parce que, Fred a souligné dans les dernières années, le phénomène de la van life a pris une très grande expansion, mais beaucoup de gens vont vivre dans leur van pendant 2 semaines de vacances ou les week-ends de l'été. Et c'est ton cas d'ailleurs, Fred, avec ton Westphalia. C'est un hobby, c'est un loisir, c'est du tourisme. Mais dans ton cas, Anthony, c'est ni plus ni moins que ta résidence pour l'année, là.
Oui, ben c'est exact. En fait, j'ai créé une espèce de routine, un peu comme si c'était ma maison. J'essaie d'aller chercher, en fait, mes services pour vivre, faire mon hygiène et tout ça. Dans la société, ben où est-ce que je m'en vais? Donc, j'ai un abonnement, par exemple, au gym. Qui me permet d'avoir des douches.
Ça, j'aime beaucoup ça, parce que c'était dans mes questions, d'ailleurs. beaucoup de gens là vont avoir des choses très essentielles dans la vie, là, mais ouais, la douche, là, c'est très, très haut dans mon palmarès. Et la question me brûlait les lèvres. Comment tu peux te laver? Mais voilà, j'ai la réponse. Merci. C'est beaucoup plus clair.
Oui, ben c'est ça, en fait. Ça me permet d'avoir une hygiène de vie équilibrée aussi au niveau de la santé, de la forme physique. Fait que je peux aller chercher, en fait, mon besoin de prendre des douches au niveau des gyms. Il y a parfois, par exemple, quand je suis constamment sur la route, je vais prendre un abonnement aux gyms qui sont bien distribués dans le pays. Comme au Québec, un gym qui est bien distribué, c'est Econo Fitness.
OK, fait que là, tu as une carte de membre qui te permet d'aller à n'importe quelle bannière de ce gym-là, peu importe t'es où sur la route.
Ouais, exact. Okay. Ben là, présentement, Econo Fitness ont fermé leur douche. Mais à cause du COVID, par exemple, World Gym, présentement, les douches sont ouvertes. Donc là, présentement, je suis avec World Gym pour répondre à mon hygiène. Mais c'est ça. Donc, quand que je voyage, par exemple, à l'étranger, aux États-Unis ou ailleurs au Canada, ben il y a des gyms comme qui s'appellent Anytime Fitness ou encore Planet Fitness qui offrent ce service-là puis qui sont bien distribués dans le pays.
Puis quand t'es sur la route, bon, évidemment, il faut que tu t'arrêtes le soir pour dormir. Comment ça fonctionne? Est-ce qu'il y a comme une communauté qui se dit un peu où aller? Est-ce que tu paies pour des campings? Est-ce que tu préfères aller vers des endroits gratuits puis un peu off the grid? Explique-nous la routine un peu.
C'est assez varié. J'essaie de combiner, en fait, des stationnements, par exemple, qui sont plus, exemple, publics, des stationnements qui sont sur ma route pour aussi sauver de l'essence. C'est important aussi de pas trop non plus dévier l'itinéraire, parce que en bout de ligne, mais ça fait simplement augmenter mes dépenses sur mon budget mensuel ou annuel, tu sais, dans mes dépenses quotidiennes. Mm-hmm. Mais c'est sûr que des fois c'est le fun d'aller plus en nature, et là ben des fois ben c'est le plaisir d'explorer avec la van. Puis il y a aussi exemple des applications qui nous montrent, en fait, des endroits où on peut aller se stationner, soit des endroits publics, soit des endroits où qui sont agréables, qu'il y a des, par exemple, une belle vue, qu'il y a des services, mettons, au niveau de l'eau potable, aussi des endroits où qui offrent des douches. Il n'y a pas juste les gyms, mais des fois il y a des centres de loisirs, des centres communautaires qui offrent des douches et tout ça. Donc c'est ça, il y a comme une espèce de vagabondage dans tout ça là, qui est quand même plaisant. Fait que faut être assez débrouillard pour trouver ces points-là.
Et comment tu fonctionnes? Là, tu nous disais être dans la région de Victoriaville. Est-ce que tu restes dans une région une semaine, deux semaines, explorer ce qu'il y a autour de toi? Ou au contraire, tous les soirs, tu te stationnes dans un nouvel endroit et tu roules dans la journée?
Ça dépend un peu de où est-ce que mon travail m'amène en tant que musicien. Donc, normalement, je vais être musicien de rue pour la ville de Québec. Par exemple, quand je suis au Québec, ou des fois, je vais être en tournée pour faire des spectacles dans la province. Donc, je vais me déplacer du point A au point B tout en trouvant en fait mes endroits pour me stationner puis répondre à mes services sur la route.
Fait que c'est vraiment, c'est ça, tout est drivé par ta carrière de musicien finalement, c'est ça qui va un peu te guider où tu vas là.
Ouais, exact, c'est en grande partie c'est ça, puis aussi par exemple mes activités, si je veux aller voir des amis, si je veux par exemple faire une activité à l'extérieur, faire un hiking ou aller découvrir des nouveaux endroits, mes déplacements vont être aussi en lien avec ça, donc je me laisse aller un peu dans mes décisions là, et tout ça.
Tu as soulevé l'aspect des coûts. Donc, à quoi peuvent ressembler les frais fixes d'une vie comme ça? Parce que, bon, évidemment, tu n'as pas de loyer ou d'hypothèque à payer, mais toujours est-il qu'effectivement, il y a des frais de carburant, il y a des frais associés au véhicule, à son entretien. Ça ressemble à quoi de manière peut-être plus globale?
En fait, c'est que quand j'ai fini en fait de payer mon véhicule, parce que j'ai eu des paiements à faire sur mon Sprinter, ben en fait ces paiements-là, je les considérais comme un loyer en fait. Puis en fait, étant donné aussi que je suis travailleur autonome, ben ces dépenses-là sur mon véhicule, ce qui est intéressant, c'est que je peux les déclarer comme des dépenses pour mon travail.
Absolument.
Donc mon loyer qui est mes paiements de véhicule, ben ça devenait comme un peu des dépenses en tant que travailleur autonome musicien. Donc il y a un aspect vraiment financier intéressant de ce côté-là. Je peux aussi, par exemple, déclarer mes dépenses au niveau des réparations, au niveau de l'essence. C'est vraiment intéressant sur ce point-là. Puis là, ben heureusement, ben j'ai fini de payer mon véhicule, donc j'ai
plus de loyer.
Donc j'ai plus de loyer à payer, donc j'ai une grande flexibilité un peu sur mon budget présentement, puis ça me permet d'être plus libre puis d'avoir un peu moins de stress financier.
Tu as parlé de fiabilité tantôt, bon, avec le Sprinter en 4 ans puis 135 000 km de route. Est-ce que tu as eu certains pépins? Est-ce que tu as eu des
Heureusement, cette année, j'ai été vraiment chanceux. J'ai pas mis beaucoup d'argent. Peut-être parce que j'ai dépassé le cap des 220-230 000 km, j'ai eu quand même des grosses réparations à faire sur le véhicule aux alentours du 200 000 km. Je vous dirais qu'en 4 ans, j'ai mis environ 10 000 $ en réparation sur ma van, qui équivaut environ à 2 500 $ en entretien par année.
Puis ça a été quoi tes bris marquants?
Le Mercedes-Benz Sprinter ont des difficultés avec le système anti-pollution.
Oui.
Donc, les sensors d'oxygène, ils appellent ça le Hat Blue Heater, c'est ce qui chauffe l'urée. Ensuite, j'ai eu un problème avec un bearing dans mon différentiel. J'ai été en Floride, dans une ville qui s'appelait Savannah. Et il n'y avait aucun...
Savannah, qui est une autre van dans laquelle beaucoup de gens dorment. Je ne sais pas si c'est un lien. En tout cas, je te laisse poursuivre.
Oui, en fait, c'est ça. À Savannah, j'ai essayé de trouver un concessionnaire ou un garage, en fait, qui était capable de réparer ma van. Et ça a été extrêmement difficile. J'étais obligé d'aller dans un truck shop, qu'on appelle, pour camion lourd, pour changer la pièce. C'est un peu le point négatif des Mercedes Sprinter. C'est assez difficile d'avoir des bons mécaniciens, des gens qui connaissent la mécanique allemande. Ça court pas à tous les coins de rue, comme par exemple un véhicule qui est plus américain ou du type genre GMC ou Ford ou Dodge. Donc, c'est ça qui rend un peu plus... un plus grand défi là, à entretenir là, sur la route.
Puis avec les années, j'imagine, tu finis par connaître le véhicule aussi, puis tu peux peut-être même procéder à certaines réparations par toi-même quand tu es mal pris sur la route?
Oui, exact. En fait, ben, j'ai pas eu le choix pour essayer de diminuer la facture le plus possible puis d'avoir un certain équilibre financier.
Ouais.
Dans tout ça, de commencer à faire mes changements d'huile par moi-même, changer des filtreurs à diesel, faire des entretiens de base comme les freins.
Je pense que tu avais repeinturé le véhicule aussi à un moment donné, ça se peut-tu?
Oui, ben j'ai eu en fait un problème de rouille.
Ah, ça, c'est fréquent avec le Sprinter, là.
Oui, exact. Sur la partie en haut du windshield, en fait, de la fenêtre avant. Et c'est ça, il y a eu des apparitions de rouille qui étaient qui commençaient à être apparentes. Puis ben pour prévenir ça, j'ai peinturé le camion complet avec une peinture à l'urethane de boîte de pick-up.
OK.
Pour sauver des coûts, donc une peinture assez épaisse pour ralentir dans le fond la progression de la rouille. Puis ça m'a permis aussi de sauver un peu des coûts là, sur vraiment un travail de peinture sur le camion complet. Là.
Puis si on regarde dans la dernière année, bon, il y a eu la COVID, évidemment. Quand on vit dans son camion, à quoi ça ressemble une pandémie?
C'est plus difficile en fait de répondre aux services de base, comme par exemple trouver des gyms, parce que là les gyms étaient fermés.
Ouais.
Donc cet hiver, j'étais dans une ville qui s'appelait Nanaimo.
Dans l'Ouest.
J'ai une tante qui a vécu là quelques années, oui.
Ouais, ben en fait c'est sur l'île de Vancouver et en fait, ce qui est vraiment particulier dans ces régions-là, c'est qu'il y a beaucoup de sans-abri ou d'itinérants qui se présentent dans ces régions-là pour vivre à cause que la température est plus clémente. Et moi, étant donné que j'étais comme un voyageur là-bas, ben, j'ai été considéré un peu comme un sans-abri.
Ouais.
Et en fait, la ville offrait des douches pour les sans-abri et les itinérants dans la région. À cause que les sans-abri sont tellement nombreux qu'ils envahissent la ville et ça devient comme un problème, en fait, quasiment un problème sanitaire.
OK.
Et en fait, la ville m'a offert, dans le fond, des douches publiques gratuites que j'ai eu accès durant le COVID. C'était assez particulier. J'ai vécu des affaires assez intenses parce que c'est pas toujours rose.
Toi, t'es là par choix, tu sais, mais c'est pas le cas de tout le monde.
Oui, exact. Mais bon, pour moi, c'est rendu la solution pour continuer à vivre de cette façon-là, parce que dans le fond, les restrictions, les mesures avec la COVID sont devenues beaucoup plus intenses, surtout en fin de printemps, aux entours de mars-avril, dans les régions là-bas, ça s'est vraiment resserré. Mais c'est ça, ça m'a forcé à m'adapter, à trouver une autre manière de répondre à mes besoins. Puis des fois, ça demande de faire certains sacrifices au niveau du confort. Mais en bout de ligne, ça vaut la peine quand on a une certaine liberté là, dans tout ça.
En terminant, Anthony, là, ça fait 4 ans que tu vis ce mode de vie-là, tu es dans ta vanne. Est-ce que tu te vois faire ça sur le plus long terme? Est-ce que tu vois un jour où tu vas vivre dans un logement plus traditionnel ou tu te vois faire ça encore longtemps?
Je me vois quand même faire ça assez longtemps. Je me vois pas comme me débarrasser de ma vanne à court terme, ça c'est sûr. C'est sûr que moi j'utilise des véhicules comme véhicule de tournée pour les spectacles et tout ça. Donc c'est très utile pour moi. Mais j'envisage peut-être éventuellement avoir un pied à terre, un endroit où que je peux me poser, bon, du moins avoir un stationnement ou un terrain.
Ouais, ça aiderait.
Ça aiderait beaucoup, mais c'est sûr que j'envisage d'avoir un petit pied à terre parce qu'après 4 ans, c'est sûr que c'est bon de retrouver un peu ses racines dans tout ça. Fait que j'ai eu un peu ce sentiment-là au cours des derniers mois, certainement.
Génial. Mais Anthony Roberge, merci beaucoup. En terminant, bien, on l'a mentionné, t'es musicien. T'as d'ailleurs sorti une nouvelle chanson cette semaine qui s'appelle « Île déserte ». Fait qu'on invite les gens à aller l'écouter sur les plateformes. J'imagine que tu es sur toutes les plateformes de streaming.
Oui, exact. Vous pouvez entendre ça sur Spotify, YouTube, iTunes. Et j'ai aussi une page Instagram qui s'appelle Anthony Roberge. Et,
c'est un nom très original pour quelqu'un qui s'appelle Anthony Roberge. Félicitations.
Ben, merci beaucoup, Anthony. Bon été dans ta van, bon spectacle. Puis,
bonne route.
S'il y a des auditeurs dans le coin du vieux Québec, de ce que je comprends, ils ont des bonnes chances de te croiser cet été.
Sûrement, oui.
Merci beaucoup, Anthony.
Merci, Anthony. Bonne route. Salut.
Merci, bonne journée.
Bye.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Le guide de l'auto. Avec Antoine Joubert et Germain Goyer.
On est de retour au guide de l'auto et c'est l'heure de répondre aux nombreuses questions qu'on reçoit chaque semaine de la part des lecteurs et auditeurs. Germain, je te laisse commencer avec une première question.
Oui, donc on a Philippe qui nous dit envisager l'achat d'un Hyundai Kona 2022. Je te demande si c'est intéressant d'opter pour le rouage intégral. Le véhicule ne circulera jamais hors route et il mentionne être habitué d'acheter d'excellents pneus d'hiver.
Bien, ma réponse à ça, moi, rapidement, c'est si vous n'en ressentez pas le besoin, la version à roue motrice avant peut bien faire le travail.
Absolument.
On répète souvent.
C'est un besoin qu'on s'est créé au fil du temps.
Bien, je veux dire, ça aide les compétences hivernales, mais on répète souvent aux gens qu'entre un rouage intégral et des bons pneus d'hiver, commencez avec des bons pneus d'hiver. Le rouage intégral est un bon plus, mais si vous n'avez pas à vous aventurer dans des routes mal déneigées, c'est vraiment pas une nécessité. Ceci dit, soyez conscient que vous allez payer le véhicule un peu moins cher. Il y a de fortes chances quand même que sa valeur de revente soit un peu plus basse aussi, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui recherchent le rouage intégral.
Au moment de la revente, ça va être désavantage.
Ça va être
un désavantage et c'est ça. Donc, ça pourra peut-être plus paraître à ce moment-là, mais encore là, il ne faut pas acheter un véhicule neuf pour celui qui va l'acheter d'occasion.
Non, achetez le véhicule selon vos besoins. Vous allez payer un peu moins cher pour une version à roue motrice avant, payer un petit peu moins en essence aussi, même si la différence n'est pas énorme. Mais oui, moi, je vous dirais, si vous ne sentez pas le besoin d'avoir un rouage intégral, il n'y a aucun mal à choisir une version à deux roues motrices. Deuxième question qui nous vient de la part de Cathy, qui veut acheter un Jeep Cherokee flambant neuf. Elle hésite entre une version North et Altitude. Laquelle choisir, Germain, mais laquelle choisir?
Oui, grande question. En fait, c'est assez simple. La version North, elle va être livrée de série avec le moteur à 4 cylindres de 2,4 litres, donc le plus petit des moteurs finalement, qui n'est peut-être pas le moteur que moi je choisirais. On peut opter pour le V6 Pentastar de 3,2 litres, donc pas le 3,6 litres qu'on retrouve dans une panoplie d'autres véhicules chez Stellantis, mais bien le 3,2 litres. Mais rendu là, si on paye le moteur optionnel, on est aussi bien d'aller vers la version Altitude qui, elle, est livrée avec le moteur V6. Donc, rendu là, aussi bien, effectivement, de faire le saut vers la version Altitude qui va être un petit peu plus équipée aussi.
Ouais. Surtout si, là, c'est pas mentionné, mais si vous devez remorquer, c'est absolument vraiment la motorisation à choisir. D'ailleurs,
c'est beaucoup plus souple aussi.
Ouais.
Là,
le Cherokee, est-ce que c'est le seul maintenant VUS compact à continuer d'offrir un V6?
C'est une excellente question et j'aurais tendance à te répondre que oui.
Parce qu'il y avait l'Outlander aussi qui ne l'offre plus avec la nouvelle génération qui arrive en 2022.
Ça ressemble pas mal à ça, effectivement.
Sinon, écoutez, RAV4 CR-V, ça fait longtemps qu'on n'offre plus ça. Donc, puis le Ford Escape, on n'en parle même pas.
On est rendu avec trois cylindres,
loin du V6.
Donc, c'est peut-être un VUS compact plus traditionnel dans son approche. Je trouve qu'un V6, c'est pas de l'exagération, loin de là, dans un véhicule comme ça. Et le rouage intégral du Jeep, on n'a même pas besoin d'en parler. Donc, plutôt que de prendre le moteur optionnel V6 dans une version North, je prendrais tout simplement, dès le début, une version Altitude.
Exact. Est-ce qu'on a une nouvelle question?
On a Sylvain qui nous dit avoir commandé un Ford Escape hybride rechargeable, donc version PHEV. Il nous mentionne que ça commence à être long et se demande à quel moment arrivera-t-il?
Bon, Là, ouais. On a une réponse officielle et une réponse officieuse pour vous. Ça fait quelques fois maintenant que Ford repousse la date d'arrivée du Ford Escape PHEV. La date qui est avancée maintenant, on nous dit que ça va arriver pour le mois d'août cet été, donc août 2021. On aimerait ça les croire, mais ça fait plusieurs fois qu'on nous donne une date et que finalement, c'est pas respecté. On a d'abord blâmé la COVID, ensuite ça a été les problèmes de... En fait, la COVID, il y a eu des problèmes avec la batterie aussi, des problèmes de fiabilité, beaucoup avec cette batterie-là, mais des risques d'explosion, carrément.
Oui, ce qui est quand même assez majeur.
Ça peut entrer dans fiabilité, je pense. puis là, maintenant, on blâme la crise des... la pénurie de microprocesseurs qui frappe toute l'industrie automobile. Ce sont toutes des raisons valables, mais ça commence à faire beaucoup de problèmes avec un véhicule qu'on a conduit au guide de l'auto il y a un an déjà, qui n'est pas arrivé encore chez les concessionnaires.
Ça commence vraiment à être long. Antoine et moi, on a eu la chance d'en discuter, de spéculer au sujet de l'Escape PHEV et de l'Escape tout court, parce que il ne se vend pas autant que c'était espéré, hein, l'Escape régulier. Non. Donc, est-ce qu'il pourrait ne jamais arriver, l'Escape PHEV?
Ben moi, j'espère sincèrement que ce ne sera pas le cas.
Est-ce qu'on n'arrivera pas directement avec un Bronco Sport PHEV?
Bien, rendu là, c'est la même plateforme. Donc, le Bronco Sport PHEV est très plausible.
Oui, mais est-ce qu'on laisserait tomber tout simplement la version PHEV?
On pourrait, mais je pense que ça serait de la mauvaise presse pour Ford. Surtout qu'il y a beaucoup de clients qui ont déjà commandé leur véhicule, comme Sylvain ici, qui attend son véhicule. Puis pour l'avoir conduit, l'Escape PHEV, Germain, franchement, c'est un bon produit.
Oui.
J'ai été impressionné par le comportement de ce véhicule-là. Son autonomie électrique n'est pas aussi bonne que celle du RAV4 Prime. Par contre, la consommation d'essence quand la batterie est à vide est meilleure.
Oui, parce que c'est un véhicule frugal. C'est un véhicule qui est traction, hein,
exact.
Finalement.
Ça, c'est la grosse déception. Il n'y a pas de 4 roues motrices.
Non, mais ça fait justement qu'il consomme moins d'essence une fois qu'il roule en mode hybride et non en mode électrique. Donc,
c'est vrai.
C'est à considérer, là. Mais effectivement, ça commence à être long.
Oui, puis si rendu au mois d'août, Ford nous parle d'un autre délai, là, on va pouvoir commencer à spéculer sur l'avenir réel de ce modèle-là. Ceci dit, Sylvain, mais si ça finit par pas arriver, mais sachez qu'il y a le Toyota RAV4 Prime qui existe, il y a l'Outlander PHEV qui, bon, moi j'attendrai parce qu'il y a une nouvelle génération qui va arriver. Il y a une version PHEV aussi du Hyundai Tucson qui s'en vient. Donc, il y a d'autres choix ailleurs dans l'industrie qui peuvent s'avérer intéressants.
Oui, on se rappelle, il n'y a pas si longtemps, l'Outlander PHEV était seul au monde. Hein, à son arrivée, il était seul. Mais bon, ce n'est plus le cas et ça va tendre à l'être encore de moins en moins.
Une petite dernière, Germain, avant qu'on ferme les livres pour la semaine. C'est Marie-Andrée qui nous écrit, qui possède une Hyundai Sonata 2015 dont elle est très satisfaite. Elle pense la remplacer pour une Sonata 2021, donc le même modèle, mais flambant neuf. Elle veut avoir notre avis là-dessus.
Bien, premièrement, si elle est très satisfaite de sa Sonata 2015, je ne connais pas l'utilisation qu'elle en fait, mais si c'est une voiture qui est encore propre, qui a peu de kilométrage, qui lui a pas causé trop d'ennuis, trop de pépins, j'ai envie de lui demander pourquoi ne pas la garder, hein, finalement. Bon, évidemment, on peut être tenté par la Sonata qui est moins anonyme que par le passé.
Qui a changé beaucoup, hein, entre 2015 et 2021, c'est deux véhicules différents.
C'est très différent, donc je la comprends tout à fait d'être attiré par la nouvelle Sonata. Cela dit, effectivement, si elle n'en a pas besoin, bon, c'est une chose, mais si elle veut changer, c'est tout à fait son droit. La gamme est très étendue, hein, pour la Sonata. Bon, on a parlé un petit peu plus tôt en effleurant le sujet de l'hybride, qui, moi, je le répète, m'a beaucoup plu. Mais, encore une fois, c'est une question de prix. Elle est beaucoup trop chère par rapport aux versions à essence, parce que c'est seulement une version plus cossue, plus haut de gamme qu'on propose avec la mécanique hybride. Sinon, ce qui est assez, on va le mettre entre guillemets, rigolo, la version de base qui est animée par un moteur 4 cylindres 2,5 litres, ben elle est plus performante que les versions supérieures à moteur optionnel qui ont le moteur 1.6 turbo compressé.
C'est spécial, ça.
Donc, c'est une stratégie que je m'explique assez mal.
Ouais.
C'est très, très particulier. Donc, je ne vois pas pourquoi on a pris cette tangente-là chez Hyundai. Donc, ça fait un choix de 3 motorisations, hein, au final.
Mais toujours pas de rouage intégral avec
Mais toujours pas de rouage intégral. Et c'est là où je m'en allais. Parce que, bon, si Marie-André recherche cette caractéristique-là, qui n'était évidemment pas offerte en 2015 lorsqu'elle a acheté sa Sonata, mais qui n'est toujours pas offerte en 2021, ouais. mais qui pourrait être une caractéristique attrayante, bien, il faut savoir que la Kia K5, donc qui remplace l'Optima, elle propose le rouage intégral. Grosso modo, là, c'est la même voiture que la Sonata. Bon, le moteur de base n'est pas le même. On embarque directement avec le moteur 1.6 turbo, mais sinon, c'est ça. C'est une voiture assez convaincante. Moi, j'ai trouvé qu'il manquait de dégagement pour la tête, mais sinon, pour le reste, ça peut être une alternative bien intéressante, justement parce qu'elle a les 4 roues motrices, soit 2 de plus que la Sonata.
Exact, mais effectivement, comme tu le dis, pourquoi changer un véhicule dont on est satisfait 2015? C'est pas si vieux.
Non.
Évidemment, il y a peut-être des informations qu'on sait pas, mais votre véhicule est encore bon pour plusieurs années, selon toute logique. Donc, pourquoi le changer?
Oui.
Germain, merci beaucoup. Ça a été un plaisir de co-animer avec toi. C'est Antoine Joubert qui sera de retour dès la semaine prochaine.
Merci, Fred. Tu as été un excellent remplaçant d'Antoine.
Toujours un plaisir. Passez une excellente semaine. Et Germain et Antoine vous retrouvent pour une nouvelle édition dès la semaine prochaine.